Troisième partie. Chapitre 23. À Londres, la nuit tombait trop tôt. Elle restait en suspens dans l'air du matin comme une menace, puis, dans l'après-midi, descendait un crépuscule bleu-gris et les constructions victoriennes prenaient un aspect endeuillé. Durant les premières semaines, le froid surprit Obinze par son agression insidieuse. Il lui desséchait le nez, augmentait ses angoisses, le faisait uriner trop souvent. Il marchait vite sur les trottoirs, ramassé sur lui-même, les mains enfouies dans le manteau que son cousin lui avait prêté, un manteau gris en laine dont les manches avalaient presque ses doigts. Parfois, il s'arrêtait à l'extérieur d'une station de métro, souvent près d'un marchand de fleurs ou de journaux, et il regardait les gens passer devant lui. Il marchait d'un pas rapide, tous ces gens, comme s'ils avaient une destination urgente, un but dans la vie, alors que lui n'en avait pas. Il les suivait des yeux avec un désir éperdu et il pensait « Vous avez du travail, vous avez des papiers, vous êtes visible et vous ne savez même pas la chance que vous avez. » Ce fut à une station de métro qu'il rencontra les Angolais qui allaient arranger son mariage, exactement 2 ans et 3 jours après son arrivée en Angleterre. Il avait compté les jours. « Nous parlerons dans la voiture », avait dit l'un d'eux au téléphone. Leur vieille Mercedes noire était impeccablement entretenue. Les tapis de sol ondulés à force d'être passés à l'aspirateur, les sièges en cuir astiqués. Les deux hommes se ressemblaient, avaient d'épais sourcils qui se rejoignaient presque. Toutefois, ils lui avaient affirmé qu'ils étaient seulement amis, et ils étaient vêtus de la même façon, blouson de cuir et longue chaîne en or. Il fut surpris par leurs cheveux taillés en brosse dressés sur leur tête, comme de hauts chapeaux, mais cela faisait sans doute partie de leur image branchée, d'avoir une coiffure rétro. Ils lui parlèrent avec l'autorité de gens qui avaient déjà traité ce genre d'affaires, ainsi qu'avec une certaine condescendance. Son destin, après tout, était entre leurs mains. « On a choisi Newcastle parce qu'on y connaît des gens. Et Londres, c'est trop chaud en ce moment. Il y a trop de mariages à Londres. Ouais, et on ne veut pas de pépins, » dit l'un d'eux. « Tout va se passer comme prévu. Reste seulement discret, ok? N'attire pas l'attention jusqu'à ce que le mariage soit conclu. Pas de bagarre au pub, ok? Je n'ai jamais été bon pour la bagarre. » dit Obinze, pince sans rire, mais les Angolais ne sourirent pas. « Tu as l'argent ?» demanda l'autre. Obinze leur tendit 200 livres, en coupure de 20, qu'il avait retiré dans un distributeur de billets en 2 jours. C'était un acompte pour montrer qu'il était sérieux. Ensuite, après avoir rencontré la fille, il verserait 2 000 livres. Le reste doit être payé d'avance, ok? Une partie pour couvrir les dépenses et l'autre pour la fille. Mec, tu sais qu'on gagne pas un centime sur cette affaire. On demande davantage d'habitude, mais on fait ça pour Iloba, dit le premier. Obinze ne les crut pas, même alors. Il rencontra la fille, Cléotilde, quelques jours plus tard dans un centre commercial, dans un McDonald's, dont les fenêtres donnaient sur l'entrée froide et humide d'une station de métro de l'autre côté de la rue. Assis à une table avec les Angolais, il observait les passants qui marchaient d'un pas pressé et se demandait si elle se trouvait parmi eux, tandis que les Angolais chuchotaient dans leur téléphone, peut-être en train d'arranger d'autres mariages. « Salut tout le monde !» dit-elle. Il fut surpris. Il s'attendait à voir quelqu'un avec des cicatrices de variole masquées par un épais maquillage, quelqu'un de dur et de rusé. Mais elle se tenait devant lui, fraîche comme la rosée, le teint olive, des lunettes sur le nez, presque enfantine, lui souriant timidement et buvant un milkshake avec une paille. Elle ressemblait à une étudiante de première année, innocente ou stupide, ou peut-être les deux. « Je voulais juste savoir si vous étiez vraiment décidé. » lui dit-il, puis, craignant de l'avoir effrayée, il ajouta « Je vous suis très reconnaissant, et je ne vous encombrerai pas trop. Dans 1 an, j'aurai mes papiers et nous divorcerons. Mais je voulais vous rencontrer d'abord, et être certain que vous étiez tout à fait d'accord. »«
Oui ?»
dit-elle. Il la regarda, attendant qu'elle en dise plus. Elle jouait avec sa paille, timidement, évitant son regard, et il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle s'intéressait plus à lui qu'à la situation. Il lui plaisait. Je veux aider ma mère. Les choses sont difficiles à la maison, dit-elle, une pointe d'accent étranger soulignant ses paroles.
Elle marche avec nous, ouais,
dit un des Angolais avec impatience, comme si Obinze osait mettre en doute ce qu'il lui avait déjà dit.
Montre-lui tes papiers, Cléo, dit l'autre.
Le fait de l'appeler Cléo sonnait faux. Obinze le perçut à la manière dont il le dit et à la manière dont elle réagit, à la légère surprise qui apparut sur son visage. C'était une familiarité forcée. L'Angolais ne l'avait jamais appelé Cléo auparavant. Peut-être ne l'avait-il jamais appelé par aucun nom. Obinze se demanda comment les Angolais l'avaient connu. Avait-il une liste de jeunes femmes avec des passeports de l'Union européenne qui avaient besoin d'argent ? Cléotilde passa la main dans ses cheveux, une masse de boucles serrées, et ajusta ses lunettes, comme pour se préparer avant de présenter son passeport et son permis de conduire. Obinze les examina. Il aurait pensé qu'elle avait moins de 23 ans. « Puis-je avoir votre numéro de téléphone ? » demanda-t-il. « Appelle-nous si tu as besoin de quelque chose, » dirent les Angolais presque de conserve. Mais Obinze écrivit son numéro sur une serviette qu'il poussa vers elle. Les Angolais lui jetèrent un regard torve. Plus tard, au téléphone, elle lui dit qu'elle vivait à Londres depuis 6 ans et économisait de l'argent pour s'inscrire dans une école de mode, alors que les Angolais lui avaient dit qu'elle vivait au Portugal. « Voulez-vous que nous nous revoyions ?» demanda-t-il. « Ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions faire un peu connaissance. »«
Oui, »
dit-elle sans hésitation. Ils mangèrent des fish and chips dans un pub, sur une table au bord incrusté d'une mince couche de crasse, pendant qu'elle parlait de sa passion pour la mode et lui posait des questions sur les vêtements traditionnels nigérians. Elle paraissait un peu plus mûre. Il remarqua le fard de ses joues, les boucles impeccables de sa coiffure, et constata qu'elle avait soigné son apparence.
Que ferez-vous lorsque vous aurez vos papiers ?
Lui demanda-t-elle.
Est-ce que vous ferez venir votre fiancé du Nigeria ?
Il fut touché par sa spontanéité. Je n'ai pas de fiancé.
Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique. J'aimerais beaucoup y aller.
Elle prononçait Afrique avec nostalgie, comme une étrangère admirative, chargeant le mot d'un attrait exotique. Son père, un noir angolais, avait abandonné sa mère, une portugaise blanche, quand elle avait à peine 3 ans, lui dit-elle. Et elle ne l'avait jamais revue depuis, et n'était jamais allée en Angola. Elle le lui confia en haussant les épaules, levant les sourcils d'un air désabusé, comme si cela lui avait toujours été indifférent. Mais de manière si peu naturelle, tellement forcée, qu'il sautait aux yeux qu'elle en était profondément affectée. Il y avait des problèmes dans sa vie qu'il aurait voulu mieux connaître, des parties de son corps harmonieux qu'il rêvait de toucher, mais il préférait ne pas compliquer les choses. Il attendrait jusqu'au mariage, que la question d'argent soit réglée. Elle sembla le comprendre sans qu'il ait besoin d'en parler. Aussi, quand ils se revirent les semaines suivantes, s'entraînant à répondre aux questions qui leur seraient posées durant l'entretien avec les agents de l'immigration ou parlant simplement de football, ils sentirent grandir en eux l'impatience d'un désir contenu. Il était palpable quand ils se tenaient près l'un de l'autre, sans se toucher, quand ils attendaient le métro, se taquinaient parce que Obinze supportait Arsenal et Cléotilde Manchester United, laissaient leurs regards s'attarder l'un sur l'autre. Une fois qu'il eut payé aux Angolais les 2 000 livres en liquide, elle lui dit qu'il ne lui avait donné que 500 livres.
« Je te le dis en passant, je sais que tu n'as pas davantage d'argent. Je le fais pour toi, » lui dit-elle.
Elle le regardait, les yeux brillants, emplis de tout ce qu'elle ne disait pas, et il se sentit revigoré, soudain conscient qu'il avait soif de quelque chose de simple et de pur. Il avait envie de l'embrasser, d'embrasser sa lèvre supérieure, plus rose et plus brillante que l'autre, de la tenir dans ses bras, de lui dire qu'il lui était profondément, irrémédiablement reconnaissant. Elle ne remuerait jamais les angoisses qui l'habitaient, ne ferait jamais usage de son pouvoir sur lui. Une femme d'Europe de l'Est, lui avait raconté Iloba, avait demandé au Nigérian, une heure avant leur mariage devant le juge, de lui refiler 1 000 livres de plus, sinon elle le laissait tomber. Paniqué, L'homme avait appelé tous ses amis pour recueillir l'argent.
« Mec, tu as fait une bonne affaire !»
répondit l'un des Angolais quand Obinze lui demanda combien ils avaient donné à Cléotilde. Il avait pris ce ton particulier, le ton des gens qui se savent indispensables. Ce furent eux, après tout, qui le conduisirent chez un avocat, un Nigérian à la voix basse, assis dans un fauteuil pivotant qu'il faisait glisser en arrière pour atteindre un classeur, et qui lui dit « Vous pouvez encore vous marier bien que votre visa soit expiré. En réalité, vous n'avez pas d'autre choix que de vous marier. »
Ce furent eux qui fournirent les factures d'eau et d'électricité, remontant à 6 mois en arrière, à son nom et portant une adresse à Newcastle, eux qui trouvèrent un homme qui allait arranger le problème de son permis de conduire, un dénommé Brown.
Obinze rencontra Brown à la gare de Barking. Il se tenait à l'entrée du quai comme prévu, au milieu d'un flot de gens, regardant autour de lui, impatient d'entendre sonner son téléphone, parce que Brown avait refusé de lui communiquer un numéro.
Vous attendez quelqu'un ?
Brown se tenait devant lui, un homme fluet, son bonnet enfoncé jusqu'aux yeux.
Oui, c'est moi, Obinze,
dit-il avec l'impression d'être un personnage de roman d'espionnage obligé d'employer un code ridicule. Brown l'entraîna dans un coin tranquille, lui remit une enveloppe et à l'intérieur, il y avait son permis orné de sa photo, offrant l'aspect authentique, un peu usagé, d'un document vieux d'un an. Une carte légère en plastique, mais qui pesait son poids dans sa poche. Quelques jours après, muni du document, il pénétrait dans un bâtiment qui, vu de l'extérieur, ressemblait à une austère église surmontée d'un clocher, mais dont l'intérieur était miteux, chaotique, bondé. Des inscriptions étaient griffonnées sur des tableaux blancs. « Bureau des naissances et décès. Bureau des mariages. » Obinze, le visage volontairement inexpressif, remit son permis à l'officier d'état civil derrière le bureau. Une femme se dirigeait vers la porte, s'adressant d'une voix forte à son compagnon.
« Regarde tout ce monde.
Rien que des mariages bidons maintenant que Blunkett les a dans le collimateur. » Peut-être était-elle venue déclarer un décès et que ses paroles ne reflétaient qu'une manifestation de chagrin, mais Obinze sentit un accès de panique familier lui serrer la poitrine. L'officier examinait son permis, prenait son temps. Les secondes s'éternisaient. Rien que des mariages bidons. Les mots retentissaient dans sa tête. Enfin, l'officier leva les yeux et fit glisser vers lui un formulaire.
« Vous allez vous marier, hein ? Félicitations !»
Les mots jaillirent avec la jovialité machinale d'une longue habitude.
« Merci, » dit Obinze, s'efforçant de prendre un air moins figé.
Derrière le bureau, un tableau blanc était appuyé contre un mur. Les lieux et dates des futurs mariages inscrits en bleu. Un nom en bas du tableau attira son regard. Okoli Okafor et Crystal Smith. Okoli Okafor avait été un de ses camarades de classe au lycée et à l'université. Un gentil garçon dont tout le monde se moquait parce qu'il avait un nom de famille comme prénom et qui plus tard était entré dans une secte dangereuse à l'université, puis avait quitté le Nigeria durant une des longues grèves. Il était là aujourd'hui, le fantôme d'un nom, sur le point de se marier en Angleterre. Peut-être un mariage bidon, lui aussi. Okoli Okafor. Tout le monde l'appelait Okoli Paparazzi à l'université. Le jour de la mort de la princesse Diana, un groupe d'étudiants s'était rassemblé avant un cours, parlant de ce qu'ils avaient entendu à la radio le matin, répétant à l'envi le mot « paparazzi », l'air au courant et sûr d'eux, jusqu'à ce que, dans un moment de calme, Okoli demande tranquillement « Mais qui sont exactement les paparazzi ? Des motocyclistes ?» gagnant aussitôt le surnom d'Okoli Paparazzi. Ce souvenir, clair comme un rayon de lumière, ramena Obinze à une époque où il croyait que l'univers se plierait à sa volonté. Un sentiment de mélancolie l'envahit tandis qu'il quittait le bâtiment. Une fois, durant sa dernière année à l'université, l'année où les gens dansaient dans les rues parce que le général Abacha était mort, sa mère avait dit « Un jour, je lèverai les yeux et tous ceux que je connais seront morts ou partis à l'étranger. » Elle avait parlé d'un ton là. assis dans le salon. Il mangeait du maïs bouilli et de l'oubé. Il avait perçu dans sa voix la tristesse de la défaite, comme si ses amis qui partaient pour des postes d'enseignants au Canada et en Amérique confirmaient ce qui était pour elle un immense échec personnel. Pendant un moment, il avait eu le sentiment que lui aussi l'avait trahi en formant son propre projet. Obtenir son diplôme de troisième cycle en Amérique. Travailler en Amérique. Vivre en Amérique. C'était un projet qui l'habitait depuis longtemps. Il savait bien sûr que l'ambassade américaine pouvait être absurde. Le vice-chancelier, aussi incroyable que cela pût paraître, s'était vu refuser un visa pour assister à une conférence. Mais il n'avait jamais douté de son plan. Il s'étonnerait plus tard d'en avoir été aussi sûr. Peut-être parce qu'il ne voulait pas simplement aller à l'étranger, comme tant d'autres. Désormais, certains partaient en Afrique du Sud, ce qui le faisait sourire. Pour lui, cela avait toujours été l'Amérique, seulement l'Amérique. Un désir entretenu et nourri pendant de longues années. Le film publicitaire « Andrew Checking Out », qu'il regardait dans son enfance sur la chaîne d'État NTA, avait donné forme à ce désir. « Les mecs, je me tire !» disait Andrew, fixant la caméra d'un air arrogant. « Pas une route correcte, pas d'éclairage, pas d'eau. Les mecs, on peut même pas avoir un soda !» Tandis qu'Andrew se tirait, les soldats du général Buhari matraquaient les adultes dans les rues. Les enseignants faisaient grève pour des augmentations de salaire et sa mère avait décidé qu'il ne boirait plus de Fanta chaque fois qu'il en avait envie, mais seulement le dimanche. C'est ainsi que l'Amérique devint un pays où l'on pouvait boire autant de Fanta qu'on le voulait, sans demander la permission. Il se tenait devant la glace et répétait les mots d'Andrew. « Les mecs, je me tire !» Par la suite, alimenté par quantité de revues, livres, films, récits sur l'Amérique, son désir prit une forme quasi mystique et l'Amérique devint le lieu où devait s'accomplir son destin. Il se vit arpentant les rues de Harlem, discutant d'Amérique de Mark Twain avec ses amis américains, contemplant le mont Rushmore. Quelques jours après avoir obtenu son diplôme à l'université, fort de ses connaissances sur l'Amérique, il fit une demande de visa à l'ambassade américaine de Lagos. Il savait déjà que le meilleur interlocuteur était l'homme à la barbe blonde, et avançant dans la queue, il espéra ne pas être interrogé par l'horreur personnifiée, la jolie blanche réputée pour hurler dans le micro et insulter même les grands-mères. Son tour vint enfin, et le blond barbu dit « Personne suivante !» Obinze se dirigea vers lui et glissa ses papiers sous la vitre. L'employé les examina rapidement et dit, avec bienveillance, « Désolé, vous ne remplissez pas les conditions. »« Personne suivante !» Obinze fut abasourdi. Il fit trois autres tentatives au cours des mois suivants. Chaque fois, on lui dit, sans même jeter un coup d'œil à ses papiers, « Désolé, vous ne remplissez pas les conditions. » Et chaque fois, il sortit de la fraîcheur climatisée de l'ambassade et se retrouva sous le soleil brûlant, interdit, abasourdi. « C'est la peur du terrorisme, » lui dit sa mère. « Les Américains se méfient aujourd'hui des jeunes étrangers. » Elle lui conseilla de chercher un emploi et de réessayer un an plus tard. Ses demandes de travail n'aboutirent à rien. Il se rendit à Lagos, à Port-Harcourt et à Abuja pour passer des tests d'évaluation qui lui parurent faciles. Il fut convoqué à des entretiens, répondant aux questions sans hésiter, puis s'ensuivait un long silence. Certains de ses amis trouvaient du travail, des gens qui étaient moins diplômés et ne parlaient pas aussi bien que lui. Il se demandait si les employeurs ne sentaient pas trop fortement son désir d'Amérique dans son haleine, s'ils devinaient qu'il consultait frénétiquement les sites des universités américaines. Il vivait chez sa mère, utilisait sa voiture, couchait avec de jeunes étudiantes crédules, passait des nuits entières sur Internet dans des cybercafés qui offraient des promotions spéciales et restait parfois la journée entière dans sa chambre à lire, évitant sa mère. Il détestait sa bonne humeur calme, son irréductible optimisme, l'entendre dire qu'avec le président Obasanjo au pouvoir, les choses changeaient, que les sociétés de télécom et les banques se développaient et recrutaient, qu'elles accordaient même aux jeunes des prêts pour acheter une voiture. La plupart du temps, cependant, elle le laissait tranquille. Elle ne frappait pas à sa porte. Elle se contentait de demander à la femme de ménage, Agnès, de lui garder quelque chose à manger et de débarrasser les assiettes sales de sa chambre. Un jour, elle lui laissa une note sur le lavabo de la salle de bain. « Je suis invitée à un congrès d'enseignants à Londres. Nous devrions discuter. » Quand elle rentra de son cours, il l'attendait dans le salon. « Maman ?»«
Non, »
dit-il. Elle lui répondit par un signe de tête et posa son sac sur la table au centre de la pièce. « Je vais ajouter ton nom sur ma demande de visa anglais comme assistant de recherche, » dit-elle calmement. « Cela devrait te permettre d'obtenir un visa de 6 mois. Tu peux habiter chez Nicolas à Londres. Réfléchir à ce que tu veux faire de ton existence. De là, tu pourras peut-être aller en Amérique. Je sais que ton esprit n'est plus ici. » Il la regarda fixement. « Je comprends que c'est la mode de nos jours, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur le canapé, s'efforçant de paraître détachée, mais la brusquerie inhabituelle de son ton trahissait son malaise. Elle appartenait à la génération du désarroi qui ne comprenait pas ce qui était arrivé au Nigeria, mais se laissait emporter par les événements. C'était une femme qui se tenait à l'écart, ne demandait pas de faveur, ne mentait pas, n'acceptait même pas une carte de Noël de ses étudiants, craignant que cela la compromette, qui rendait compte de chaque kobo dépensé pour un des comités auxquels elle siégeait. Et aujourd'hui, elle se comportait comme si dire la vérité était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Une attitude à l'opposé de tout ce qu'elle lui avait enseigné, et pourtant il savait que la vérité, dans leur situation, était réellement devenue un luxe. C'est pour lui qu'elle mentait. Si quelqu'un d'autre avait menti pour lui, cela aurait eu moins d'importance, voire aucune, mais elle mentit pour lui, et il obtint un permis de séjour de 6 mois en Angleterre, et il eut l'impression, même avant son départ, d'être un raté. Il ne lui donna aucun signe de vie pendant des mois. Il resta silencieux parce qu'il n'y avait rien à lui dire et qu'il voulait attendre d'avoir quelque chose à lui raconter. Il était en Angleterre depuis 3 ans et il lui avait parlé à de rares occasions, des conversations tendues pendant lesquelles il imaginait qu'elle se demandait pourquoi il n'avait rien fait de lui-même. Mais elle ne cherchait jamais à avoir des détails. Elle attendait seulement d'entendre ce qu'il était prêt à dire. Plus tard, à son retour au pays, il se reprocherait son comportement, son aveuglement à son égard, et il passerait beaucoup de temps avec elle, décidé à se racheter, à retrouver leur rapport d'autrefois, et avant tout, à tenter de définir ce qui les avait éloignés l'un de l'autre.